Bonjour à tous et à chacun, à toutes, à chacune, Christophe au micro, Simon à la mise en onde, l'invité d'ensemble est aujourd'hui Catherine Claude, déléguée départementale du Secours catholique d'Eure-et-Loire. En ce début d'année, nous allons peut-être vous cueillir à froid, la bûche et les liqueurs sont à peine digérées que déjà la réalité se rappelle à nous et la réalité vraie, celle que vivent tous les jours des milliers, voire même des millions de gens en France, eh bien, c'est la pauvreté. C'est pauvreté qu'on ne voit plus, nous dit le rapport statistique annuel du Secours catholique, car c'est de ce rapport et de sa déclinaison locale, si j'ose dire, que nous allons parler aujourd'hui. Un rapport même pas alarmant, car l'alarme, voire l'alerte, ont été données il y a déjà beau temps par les associations caritatives et humanitaires, dont le Secours catholique. Catherine, bonjour.
Bonjour Christophe.
Et bonne année.
Merci Christophe. Merci de commencer cette année avec le Secours catholique.
En 2013, donc, les Secours catholiques de France ont accueilli 1 477 000 personnes. C'est un chiffre que je trouve terrifiant.
Ben, je ne sais pas, Christophe. Est-ce qu'il est terrifiant ou est-ce qu'on voit l'expertise du Secours catholique de recevoir donc des personnes? Alors, c'est terrifiant de recevoir beaucoup de personnes en pauvreté, mais à la fois, moi, j'ai envie de positiver en disant, voilà, ça permet aussi au Secours catholique d'avoir une expertise, parce que le rapport statistique auquel vous faisiez allusion est vraiment fait sur ces personnes que nous rencontrons. Hein, nous sommes la seule association en France, encore aujourd'hui, à pouvoir faire des statistiques sur les personnes que nous rencontrons.
C'est pourquoi le rapport du Secours catholique est fait vraiment autorité, hein.
Ah, tout à fait, ouais. Tout à fait, autorité auprès des pouvoirs publics, hein, et quel que soit l'échelon, voilà, que ce soit un échelon national, que ce soit un échelon départemental ou même au niveau des mairies. Ouais.
Alors, on va donner pas mal de chiffres là au cours de cette émission. Parmi les accueillis dont je parlais, donc 1 477 000 personnes, il y a des hommes et des femmes, et il y a 670 000 enfants, 670 000 boutchous que le Père Noël a oublié de visiter. Mmh. On l'oublie souvent, ça.
Oui, je ne sais pas si le Père Noël a oublié de les visiter, parce qu'il y a quand même plein de bénévoles et plein d'accueils, hein, qui font des choses, et d'autres associations caritatives aussi. Oui, c'est vrai, vous avez raison, Christophe, de dire qu'il y a autant d'enfants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté.
Ouais. Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est le seuil de pauvreté, au fait? On parle à peu près, c'est bien en dessous du SMIC, évidemment.
Ah hein, oui, c'est bien en dessous du SMIC. On va retrouver dans l'émission, hein, Christophe. Mais effectivement, enfin, c'est des petites ressources.
C'est des petites ressources, oui. Alors, 50 000 de plus qu'en 2012, on frappait à la porte du Secours catholique en 2013. Trois quarts d'entre eux ont été envoyés par les services sociaux.
Oui.
C'est important de le dire aussi, ça.
Oui, bien sûr, c'est important de le dire, parce qu'on voit aussi comment les services sociaux sont aussi démunis et qu'ils envoient vers les associations caritatives. Hein, on l'a remarqué, nous aussi, au niveau de la région centre, quand on a fait un rapport plus affiné, j'ai envie de dire, au niveau de la région centre, mais également sur la délégation de l'Eure-et-Loire. On peut dire, Christophe, que pour nous, 90% des personnes qui poussent la porte des accueils du Secours catholique arrivent là par les services sociaux. Oui, les assistantes sociales, que ce soit du Conseil général, que ce soit des CCAS, bien sûr.
Alors, il y a un autre chiffre qui m'a frappé, c'est que plus de 2/3 des ménages rencontrés en 2013, là, au niveau national, n'étaient pas connus l'année précédente. Est-ce que ces chiffres, on les retrouve grosso modo ici?
Mais tout à fait, Christophe, tout à fait, bien sûr. C'est les mêmes personnes, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, la pauvreté s'accentue. Il y a des gens qui poussent les portes du Secours catholique, d'autres associations caritatives, en disant « mais nous n'aurions jamais pensé le faire ». Voilà. Oui, bien sûr que la pauvreté s'accentue.
Ouais. C'est une nouvelle génération de pauvres. C'est la crise qui est à l'origine de cette recrudescence de la pauvreté.
Ah oui, c'est la crise. C'est la crise dans laquelle nous sommes encore et que nous ne sommes pas sortis. Ce sont des gens à faible revenu. Je crois que c'est ça qui est important à dire. Vous savez, on a une fausse image des personnes en difficulté. On croit voilà, qu'ils ne savent pas gérer leur budget. Mais je m'insurge contre cela. Bien sûr, il y en a des personnes peut-être. Mais la majorité des personnes, ce sont des personnes qui ont des ressources qui ne sont pas suffisantes pour pouvoir vivre. Ouais. C'est ça qu'il faut se dire, Christophe, que ce soit des petits salaires, que ce soit parce que ce sont des personnes qui sont avec des emplois précaires, que ce soit des personnes retraitées avec des petites retraites, voilà, et on le verra au cours de votre émission le pourquoi, hein, mais c'est des gens qui ont des petites ressources, ouais. Voilà, des très petites ressources.
Ouais. Et il y a une forte présence des couples avec enfants. dans les accueils, là au niveau national. Et je sais qu'au niveau local, il y a 2 ou 3 ans, je m'étais rendu à un Noël du Secours catholique. J'avais été très surpris justement de rencontrer beaucoup de jeunes couples avec des enfants.
Oui, bien sûr, des jeunes couples avec tous les enfants, mais on a vraiment toute cette catégorie, hein. Le focus qui a été mis cette année par le Secours catholique, ça a été voilà, plutôt la précarité des seniors, la précarité des jeunes également. Ce qui est ressorti aussi, c'est la précarité, je pense que nous allons en parler, des personnes migrantes, personnes étrangères. Voilà. Et puis, il y a eu un focus aussi sur tout ce qui était précarité énergétique. Ouais. Voilà. Hein, ça, il faut le
savoir.
Ça,
on en parlera tout à l'heure, parce que c'est important et intéressant de voir à quel point, justement, oui. Le coût de l'énergie est terrible dans les foyers.
Quoi, oui, tout à fait. Voilà. Nous, on a vu une recrudescence hein, dans notre département de Eure-et-Loire de personnes à la rue, de personnes qui vivent dans des squats. Et alors là, encore une nouvelle fois, Christophe, nous avons toutes les générations. Nous avons des jeunes. Alors, en général, effectivement, ça concerne quand même beaucoup plus d'hommes que de femmes. Néanmoins, il y a quand même des femmes, il faut le savoir. Voilà. Et ce sont des jeunes, hein, des jeunes. Alors, soit effectivement des jeunes qui sont en rupture familiale, des personnes un petit peu plus âgées, plutôt la base 25-30 ans, et puis ensuite des personnes 50-55 ans qui sont à la rue. Hein. Et alors qui sont amenées à la rue ou amenées à vivre dans des squats. Voilà, c'est des cumuls de pauvreté. Voilà, alors encore, je voudrais m'insurger voilà, contre le fait de ce qu'on croit dans ces idées fausses, de gens qui sont, voilà, qui ne sont pas demandeurs d'emploi ou qui sont feignants ou autre chose. Non, ce sont des gens qui cumulent des difficultés. Ce sont des difficultés familiales, ce sont des souffrances, ce sont bien souvent aussi des séparations, oui. des deuils, et voilà, et des gens qui, ben, à la suite de deuils, ne se remettent pas de ce genre de deuil, perdent leur emploi et puis finissent à la rue.
Ouais. Se retrouver seul aujourd'hui, quand on a été marié, qu'on a par exemple, je sais pas, acheté une maison, loué une maison, ça peut être très dangereux finalement. Hein.
Oui, et ça fait vraiment partie du public, je voudrais le redire encore avec force là, hein. Voilà, il y a vraiment du public, vous savez, il faut aussi arrêter ces images de personnes qui vivent à la rue, enivrées au coin d'une rue. Non, moi, je peux vous assurer que depuis la fin de l'année dernière, hein, on a vraiment ouvert, on a ce nouveau public qui vient au Secours catholique de Chartres. Et c'est des gens, voilà, avec intellectuellement, qui sont comme vous et moi. Voilà, et c'est des gens qui cumulent des difficultés et qui se retrouvent à la rue ou en squat. Oui.
On prend une première pause musicale. On écoute Johnny Cash, un ancien pauvre lui aussi.
Anybody got any special requests for us to do? John Henry? Well, let me do John Henry, and then we'll go into... Sure. John Henry's pappy woke him up one midnight. He said, before the sheriff comes, I want to tell you. He said, listen, boy, learn to hoist a jack and learn to lay a track. Learn to pick and shovel, too, and take that hammer. It'll do anything you tell it to. John Henry's mammy had about a dozen babies. John Henry's pappy broke jail a dozen times. The babies all got sick, and when the doctor wanted money, he said, I'll pay you a quarter at a time, starting tomorrow. That's a pay for a steel driver on this line. Then a section foreman said, hey, hammer swinger. He said, I see you brought your own hammer, boy, but what else can all them muscles do? And he said, I can hoist a jack, and I can lay a track. I can pick and shovel, too. He said, can you swing that hammer? And he said, do anything you hire me to. You so high and mighty with all them muscles. Go ahead, boy, pick up that hammer and show me what you can do. He said, get a rusty spike and swing that hammer down 3 times. Pay you a nickel a day for every inch you sink it to. Go on and do what you say you can do. With a steep-nosed hammer on a 4-foot switch handle, John Henry raised it back till it touched his heels and spike went through the cross tie and it split it half in two. 35 cents a day for driving steel. Said, sweat, boy, sweat. You owe me 2 more swings. Said, I was born for driving steel.
now John Henry hammered in the mountains. He'd give a grunt and he'd give a groan with every swing. The women folks for miles around and 30 men come down. Said, watch him make the cold steel ring. Lord, what a swinger. Watch him make the cold steel ring. Then the bad boss come up laughing at John Henry. He said, you full of vinegar now, but you about through. We gonna get a steam drill to do your share of driving. Then what's all them muscles gonna do, huh, John Henry? Gonna take a little bit of vinegar out of you.
C'était Johnny Cash, un extrait du fameux concert qu'il a donné à Folsom, dans la prison de Folsom aux États-Unis, et qui avait relancé sa carrière. Nous sommes en compagnie de Catherine Claude, déléguée départementale du Secours catholique d'Eure-et-Loir. Nous avons parlé dans la première partie de cette émission du rapport annuel, un rapport statistique du Secours catholique sur la pauvreté en France. Et c'est un rapport dont les pouvoirs publics font grand cas. Et qui, moi, m'a quand même beaucoup effrayé. On a des chiffres, j'en ai donné quelques-uns, qui sont assez terribles. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, 1 477 000 personnes accueillies chaque année dans toute la France par le Secours catholique. Il y a 670 000 enfants. Et puis, il y a un autre chiffre qui m'a, moi, beaucoup alerté, beaucoup alarmé. C'est que 1 jeune sur 5 en France est sans logement fixe. C'est-à-dire qu'il vit soit dans la rue, soit dans un squat, soit dans une caravane.
C'est ce qu'on appelle le logement précaire, effectivement. Oui, Christophe, oui. Alors c'est des jeunes qu'on rencontre. C'est effrayant. Mais encore une nouvelle fois, jeune, moins jeune, toutes ces personnes qui vivent dans la rue, c'est effrayant.
C'est effrayant pour tout le monde, bien sûr. Hein. C'est évident. C'est évident. Mais pour l'avenir, on se dit, voilà, 1 jeune sur 5 en France. Ça laisse présager quand même des moments très, très difficiles.
Oui, ça laisse présager des moments très, très difficiles. Alors, bon, se dire un jeune, est-ce qu'un jeune peut être rattrapé, accompagné ou autre ? Moi, je suis toujours très alertée par les personnes plus âgées, si vous voulez, à la rue, parce que, voilà, ça m'alerte toujours, parce que je me dis, mais après, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles deviennent à la rue ? Donc ça, c'est aussi dramatique.
Ouais. Le focus a été mis d'ailleurs cette année sur la pauvreté silencieuse des hommes seuls, c'est-à-dire que des hommes qui se retrouvent seuls,
parce que ce qu'on constate, c'est que il est plus difficile pour un homme d'aller pousser les portes des associations caritatives, hormis tout ce qui est accueil de jour, et aller demander de l'accompagnement, aller demander de l'aide, aller demander de l'orientation, c'est beaucoup plus difficile pour un homme est beaucoup plus solitaire. Bien souvent, un homme n'a pas ses enfants. Une maman est peut-être plus combative parce qu'effectivement, elle a ses enfants et il faut qu'elle donne à manger à ses enfants, il faut qu'elle habille ses enfants. Donc une maman est peut-être plus pousse plus les portes d'associations caritatives, alors qu'un homme est beaucoup plus en recul.
Ouais. On a beaucoup parlé de la fracture sociale depuis déjà pas mal d'années. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une fracture sociétale, l'un et l'autre étant peut-être liés d'ailleurs, parce que on perd son travail, mais on peut aussi perdre son épouse ou perdre son époux dans la foulée. Les deux sont...
Oui, c'est ce que je disais dans la première partie de votre émission. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'on est souvent, dans le public que nous rencontrons, sur un cumul de difficultés. C'est un cumul, c'est-à-dire, Alors, en général, ça commence soit par une perte d'emploi et ensuite une perte de lien familial, soit l'inverse. Mais les deux sont liés, Christophe, bien souvent, dans les personnes que nous rencontrons. Et c'est toujours... C'est toujours plein d'émotions quand on entend, et surtout quand on entend les hommes parler. Parce que comme je disais encore une nouvelle fois, les mamans en général sont quand même avec leurs enfants. Elles ont quand même encore un peu de lien avec leur famille. Parce que quand on entend des hommes parler, des papas parler qui sont à la rue ou qui vivent en squat, c'est encore beaucoup plus émouvant quand ils disent qu'ils n'ont pas de nouvelles de leurs enfants. Et le regard que leurs enfants peuvent porter sur eux. Et on voit, bien souvent, ils se font vraiment totalement oublier leur famille.
Ouais. Alors, j'avais lu aussi là dans le rapport que la pauvreté est peut-être moindre dans les petites villes par rapport aux grandes villes. Mais quand même, là, vous me dites qu'il y a des gens qui vivent en squat, quoi, aujourd'hui,
oui.
À Chartres.
Oui, oui. Ah oui, hein, tout à fait, tout à fait, Christophe. Oui, oui. Néanmoins, encore une nouvelle fois, hein, il est aussi difficile d'être pauvre dans le rural. Hein. Il y a beaucoup moins de structures, il y a beaucoup moins de partenaires. Donc, c'est très difficile. Hein. Moi, j'ai été très touchée en cette fin d'année... d'aller rencontrer le maire d'une commune rurale là de notre département que je citerai pas mais qui m'a dit par un moment l'Église nous abandonne hein, voilà on était contraint d'arrêter une équipe locale du Secours catholique et ce maire que j'ai rencontré pour lui expliquer le pourquoi me dit mais l'Église nous abandonne et c'est terrible quoi c'est poignant d'entendre quelque chose de la sorte hein. Voilà c'est très compliqué aussi dans le rural la pauvreté. On est surtout sur de l'isolement, on est voilà, sur des choses qui sont très loin des unes des autres, des structures, tout simplement, hein, et c'est très compliqué.
Alors, il y a un autre focus qui est intéressant, c'est la précarité énergétique des ménages. C'est-à-dire que voilà, là, on retombe encore dans les gens qui peuvent avoir un boulot, mais qui finalement ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois et la facture... énergétique et lourde.
Bien sûr, Christophe, hein, vous le savez, comme vous et moi, voilà, on voit bien que ça a fortement augmenté. Ce qu'il faut savoir, par exemple, je vais donner un chiffre, hein, Christophe, on était parti sur des chiffres. Pour une personne en difficulté, tout ce qui concerne les factures d'énergie représente 22%, à peu près, entre 22 et 23% de leurs ressources. Pour une personne favorisée comme vous et moi, Christophe, ça représente que 9%. Vous voyez un petit peu. Donc ces gens-là, une fois qu'ils ont payé toutes leurs factures, voilà, il ne leur reste plus rien pour le minimum vital. Le minimum vital, c'est l'alimentation, c'est le vestimentaire, c'est les loisirs, Christophe, parce que les loisirs, ça fait partie du vital. Voilà, hein, et c'est tout ça. Et c'est ça qui est dramatique. Voilà. Alors, il n'y a pas que les associations pour ça. Il faut alerter aussi les pouvoirs publics. C'est pour ça.
Est-ce que vous avez l'impression que les pouvoirs publics se déchargent un peu sur les restos, sur le secours populaire, sur les associations caritatives en se disant, voilà, il y a quelqu'un pour faire le boulot, je m'en lave les mains.
Je le dirais peut-être pas comme ça, pour pas être trop abrupte. vous êtes journaliste. je vous laisse la responsabilité de votre interprétation. Néanmoins, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment que nous travaillions en partenariat, que ce soit avec les institutionnels ou qu'avec les associations partenaires. Et plus nous travaillerons ensemble, et plus nous apporterons des bonnes réponses aux difficultés, voilà. Le partenariat, il est important à l'échelon d'une commune, il est important à l'échelon d'un département, il est important à l'échelon européen, voilà, il faut vraiment qu'on se batte là-dessus, il faut qu'on travaille ensemble. Il y a encore des associations qui sont trop frileuses, des associations qui, excusez-moi, mais là je vais être un petit peu dure aussi, mais qui gardent leurs pauvres, voilà, qui ne veulent faire que du quantitatif. C'est facile de donner le nombre de pauvres, le nombre de tonnes qu'on donne à manger. Le Secours catholique préfère être dans du qualitatif. On parle d'accueil, d'écoute, d'accompagnement. Moi, je voudrais dire une chose très importante aussi par rapport à tout ce que vous avez dit, Christophe. C'est que dans ce fameux rapport statistique cette année, le Secours catholique a voulu remettre aussi le premier besoin des personnes qui poussent les accueils du Secours catholique. C'est l'écoute, c'est le lien, c'est l'échange avec les bénévoles. Voilà, c'est le premier besoin des personnes qui est exprimé avant tout ce qui est aide matérielle, que ce soit alimentaire, que ce soit vestimentaire. Voilà. Alors peut-être qu'il y a des bénévoles qui m'écoutent et qui diront, mais voilà, Catherine, elle ne sait pas ce que c'est que d'être à l'accueil. En tout cas, voilà, l'écoute, l'accueil, pouvoir prendre du temps, pouvoir être considéré globalement dans tout ce que l'on est.
Dans sa personne.
Dans sa personne, homme, femme, et ne pas être considéré comme quelqu'un qui est assisté. Voilà, ça aussi, ça fait partie de la dignité de la personne. Et n'oublions pas, Christophe, que nous ne sommes non seulement une association caritative, et vous le savez, je me suis déjà exprimée là-dessus, nous sommes un service d'église. Donc voilà, donc regardez la personne comme un frère, comme une sœur, et non pas dans une... Voilà, dans un l'aidant qui est supérieur, qui est au-dessus, et l'aidé qui est en dessous.
On écoute Johnny Cash et on va revenir sur les partenariats peut-être avec des exemples concrets.
Bien sûr.
Hey, will you sing a song with me?
I'd be very pleased to sing a song
sure
with you.
Sure look nice.
Thank you. I'm glad to be back in Folsom.
Well, I like to... I like to watch you talk.
I'm talking with my mouth. This way
All
I'll
right,
be...
let's do a song.
got married in a fever. What a land of pepper crowd. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson. Look out, Jackson Town. City, people gonna stoop and bow. All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm going to Jackson. You turn loose of my coat. I'm going to Jackson.
Voilà, c'était Johnny Cash et sa partenaire June Carter, un extrait de l'album enregistré dans une prison de Folsom aux États-Unis il y a déjà beau temps. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Catherine Claude, déléguée départementale du Secours catholique d'Eure-et-Loire, que nous parlons du rapport statistique annuel du Secours catholique. Là, c'est pour l'année 2013. On a vu à quel point ce rapport était alarmant. Il y a de plus en plus de pauvres en France. Les réponses à apporter, il y a des réponses évidemment sans doute politiques, mais il y a aussi des réponses locales grâce à des partenariats que vous savez mener. Catherine, pouvez-vous nous donner quelques exemples concrets de partenariats avec peut-être des pouvoirs publics locaux ?
Oui, avec les pouvoirs publics locaux, avec des associations, plusieurs exemples. Voilà, le premier exemple qui est quand même très important, c'est l'épicerie solidaire que nous avons mis en œuvre avec plusieurs associations et avec la mairie de Chartres qui a contribué à tout ce qui était au niveau du matériel. Voilà, et puis plusieurs mairies aussi qui sont venues nous rencontrer, enfin, ou qui démarrent une réflexion. Mairie de Dreux, mairie d'Épernon, mairie d'Illier, voilà, pour savoir comment on pouvait mieux accompagner les personnes sur le point alimentaire, hein, puisque vous le savez que nous avons arrêté notre distributif alimentaire.
On le précise, hein, donc il n'y a plus de distribution alimentaire au Secours catholique, c'est délégué à l'épicerie sociale.
Alors, disons bien les choses, hein, Christophe, plus de distributif alimentaire, ce qui ne veut pas dire plus d'aide alimentaire. Hein. C'est-à-dire que l'aide alimentaire peut se faire autrement que par du distributif.
Et par exemple
Par exemple, des repas partagés, des jardins partagés, réfléchir avec des mairies, comme je viens de le dire, sur des épiceries sociales, voilà. Et puis je crois que nous devons faire preuve aussi d'activités nouvelles à mettre en place. Voilà, il faut que, vous savez, comme j'aime à le dire aussi, être un service audacieux, une église audacieuse avec de nouvelles activités et tout ça. Voilà, donc là, on a une opportunité, il faut que nous la saisissions, et il faut que nous saisissions aussi le fait de travailler non seulement avec les partenaires, mais travailler aussi avec les personnes que nous accueillons. Ce sont des gens qui ont des compétences, ce sont des gens qui ont des idées. Eux, ils savent ce que c'est que la pauvreté. Donc, il faut aussi que nous travaillions avec eux. Voilà, donc plein d'idées. Un partenariat aussi que nous avons fait sur la ville de Chartres par rapport au logement, avec entre autres le FAC, le Bercail, Saint-Vincent-de-Paul, où on a fait un appel au logement pour la période hivernale. Donc voilà, mais j'y crois beaucoup. C'est vraiment très important. Tous ces partenariats pour pouvoir répondre au mieux aux difficultés des personnes.
Cet appel au logement, il a été lancé aux collectivités, il a été aussi lancé auprès des particuliers.
Exactement.
Pour l'instant, là, ça fait à peu près un peu plus de 2 mois, je crois, que l'appel a été lancé. Ça donne des fruits, des résultats ?
Alors, ça donne des fruits, hein, oui. Il y a eu une famille, une des premières familles qui a été logée, c'était sur Nogent-le-Retrou, dans l'Institut Belay. Voilà, Nogent-le-Retrou. Donc voilà, enfin, on y a mis des... Alors, c'est le FAC qui suit ça, qui suit la accompagnement des personnes, voilà, c'est vraiment une problématique pour pouvoir désengorger le 115, donc nous avons mis des familles à l'abri, et de façon à ce que les personnes qui téléphonent au 115 puissent être hébergées en nuitée pour les nuits, voilà.
On peut dire 2 mots quand même de l'épicerie solidaire, cette épicerie solidaire, tout le monde, enfin, il y a des conditions de ressources évidemment, tout le monde n'y a pas accès.
Alors, ce qu'il faut bien retenir au niveau d'une épicerie solidaire, hein, c'est vraiment de l'accompagnement de la personne sur un projet précis qu'elle a, voilà, une facture, l'achat d'un électroménager. C'est sur un temps déterminé et la personne, effectivement, donne une contribution financière. Hein, c'est calculé suivant son coefficient familial, la constitution de sa famille. Et ça permet aussi de ne pas être dans de l'assistanat et d'accompagner dignement la personne. Mmh. C'est très important.
Récemment, le président de la République a fait un discours sur l'immigration, l'accueil de l'étranger. Vous êtes au cœur, vous, de l'accueil de l'étranger. Ce sont les pauvres parmi les pauvres, bien souvent, d'ailleurs.
Oui, ce sont les pauvres parmi les pauvres. Alors, vous savez, quand on parle étranger, pourrait faire une émission entière, Christophe, là-dessus. Voilà, donc quand les personnes sont en demande d'asile, qu'elles sont hébergées en CADA, elles ont une petite allocation, voilà, c'est compliqué, mais on va dire, néanmoins, elles sont quand même accompagnées. Ce qui n'est plus important, c'est quand les personnes sont déboutées, hein, c'est-à-dire que les démarches qu'elles ont faites n'ont pas abouti. Voilà, donc là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'après, ben, il n'y a plus d'aide, il n'y a plus rien. Voilà, quand on aide ces personnes, on sait que ben on se met en défaut par rapport à l'État, voilà. Et là, une préconisation encore au niveau du Secours catholique forte, hein, c'est pouvoir redonner aussi le travail aux personnes étrangères qui sont en demande d'asile. Ça, c'est important parce que l'oisiveté, c'est quelque chose de terrible pour ces personnes. Hein, et comment vouloir s'intégrer puisqu'elles ont obligation, on va le dire, Christophe, de s'intégrer. Alors déjà par l'apprentissage de la langue et autres sur la culture.
Vous aidez beaucoup d'ailleurs dans l'apprentissage de la langue, car on avait fait une émission en direct de Secours catholique il y a quelques temps, l'année dernière, avec une famille arménienne qui était ardemment aidée par deux bénévoles du Secours catholique.
Oui, tout à fait. Ça, c'est très important, voilà, parce qu'on essaye de pallier aussi au manque, hein, d'autres associations, et ça, c'est très important qu'elles puissent retrouver, connaître au moins notre langue française, ouais, bien sûr.
Alors, il nous reste une petite minute, donc je voudrais qu'on conclue. Je voudrais connaître votre sentiment, finalement, profond, vous qui œuvrez depuis déjà de nombreuses années pour les plus démunis, sur la société dans laquelle on vit aujourd'hui. On va où? Vous n'avez pas l'impression qu'on va dans le mur, quand même, depuis quelques années?
Alors, non, Christophe, je ne vais pas dire qu'on va dans le mur, parce que je pense que sinon, il faudrait que je quitte cette association.
Mais un mur, ça se traverse, remarquez,
oui,
hein, c'est possible.
Oui, un
mais
mur, ça se traverse. Moi, je crois vraiment, il faut vraiment qu'on aille sur une solidarité de chacun. Ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas. Hein, on est solidaires les uns et les autres sur son voisin, sur sa voisine. Je pense que si chacun prenait en charge la personne qui habite à côté de chez elle, la personne à la rue, mais surtout change son regard sur les personnes, je pense que déjà ça irait bien. Oui, il faut que nous soyons solidaires tous ensemble. C'est pas possible que nous vivions dans ce pays pauvre. C'est pas possible non plus qu'il y ait des pays en sous-développement, alors qu'on sait très bien qu'au niveau de notre terre, il y a bien assez de nourriture pour chacun, il y aurait bien assez pour tout le monde. Je crois qu'il faut qu'on arrête ce monde individualiste, ce monde égoïste. Voilà, moi je crois vraiment que c'est possible pour chacun. Il faut que nous partions aussi des personnes, il faut que nous fassions avec les personnes. Moi, j'ai un rêve, Christophe. J'ai un rêve. Je rêve d'un, non pas diaconia au niveau de l'Église, mais j'ai un rêve d'un rassemblement national des associations caritatives, des pouvoirs institutionnels pour justement vivre tous ensemble cette solidarité. Voilà, alors si on m'entend, si un président, une présidente d'association ou d'institution qui m'entendent, voilà, essayons de réfléchir à un rassemblement national sur la solidarité hors des murs de l'Église. Nous avons montré l'exemple avec Diaconia en 2013. Moi, j'aime hein, cette Église qui montre l'exemple. Maintenant, que la société dans laquelle nous vivons prenne cet exemple et monte au créneau pour vivre une vraie solidarité, une vraie fraternité, et arrêtons de galvauder ce terme de fraternité.
Eh bien, nous allons croiser nos doigts et retrousser nos manches, Catherine. Merci beaucoup.
Merci, Christophe.
Merci à Simon à la technique. À très bientôt. Shot of cocaine and I shot my woman down. I went right home and I went to bed. I stuck at 11:44 beneath my head.
Got up next morning and I grabbed that gun. Took a shot of cocaine and away I run. Made a good run, but I run too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico. Laid in the hot joints.